Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Émilie Julia.
Amine Malouf, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Nous parlons aujourd'hui de votre roman sorti début octobre 2012 chez Grasset qui s'intitule Les Désorientés. Ce livre légèrement ou forcément autobiographique nous fait vivre et comprendre le rapport au vieux pays, celui que l'on a quitté à cause de la guerre ou plutôt des événements comme vous le dites, celui qui laisse tant de nostalgie, de souvenirs, de jours heureux, de rancœur aussi, de remords, parfois de regrets. Le personnage principal, Adam, rentre au pays après de longues années passées à Paris et il réunit les amis de sa jeunesse et tout un tas de nombreuses péripéties arrivent par la suite pour retrouver ses amis d'enfance et c'est là que se jouent les identités meurtrières, un thème que vous avez déjà traité dans l'un de vos précédents livres. Dans Les Désorientés, il n'est jamais question du Liban mais du Levant, il n'est jamais question de guerre mais des événements. Qu'est-ce que ces doubles sens cachent ?
Je pense que c'est un moyen de se protéger de la réalité. Ne pas nommer le pays, même s'il est évident que c'est le Liban, ne pas nommer la ville, ne pas parler d'événements très précis qui situent le livre dans le temps et dans l'espace. C'est un livre qui parle de ma jeunesse, mais indirectement. Il n'est pas autobiographique, il a une apparence autobiographique a un contenu autobiographique. Je m'explique. Il a l'apparence parce qu'il raconte l'histoire d'un personnage qui me ressemble un peu, mais pas totalement. Et le contenu, c'est-à-dire l'univers dans lequel a grandi ce personnage, ressemble à mon univers. Mais le reste est transformé. Les personnages ne sont pas exactement les mêmes. Les événements sont mise en scène, quelquefois maquillée.
N'est-ce pas difficile d'évoquer des passages très intimes de votre vie, parfois fatalistes ? C'est une partie très profonde de votre vie. Est-ce que vous en parlez avec tranquillité, avec aise ?
J'aurais été très mal à l'aise si je devais en parler directement à la première personne, si c'était présenté comme une autobiographie. Ce qui me facilite la chose, c'est justement de parler de personnes qui ont des liens avec moi, qui ont des similitudes, mais qui ne sont pas moi-même. Adam, son regard est assez similaire au mien. En même temps, son histoire est différente, son passé est différent. Nous n'avons même pas le même âge. Ça me facilite les choses, mais vous avez raison de dire que c'est un exercice difficile, surtout pour moi. Je suis très peu autobiographique. Je n'aime pas beaucoup parler de moi-même. Je suis mal à l'aise, j'ai plutôt tendance à être discret, parfois même secret.
Au fond, qu'est-ce qui choque le plus le personnage principal Adam quand il revient au pays ? Il y a la question des religions, il y a la question des changements, il y a la question des événements, il y a la question des propriétés. Mais qu'est-ce qui choque au final le plus ?
Je pense que son problème principal, c'est qu'il est parti pour une raison qu'il est difficile d'expliciter. Il a rêvé d'un monde. Il sait déjà que le monde dont il a rêvé ne verra pas le jour. Il a rêvé d'un avenir pour son pays et il sait que cet avenir est déjà plus que compromis. En même temps, il n'a pas envie de le nier. Il n'a pas envie de tourner le dos. Et il est dans une position assez inconfortable. Il a le sentiment d'avoir trahi un pays, une maison, une famille, en s'éloignant. Et en même temps, s'il n'avait pas trahi le pays, la terre, il aurait trahi les principes. Parce qu'il se rend compte que ceux qui sont restés ont dû se compromettre au moment de la guerre.
Il dit des phrases très bouleversantes, parfois très noires. Le terrible mot de désillusion vient de temps en temps, aussi ceux de regret, fatalisme. Notamment, page 12, il parle de, à long terme, tous les fils d'Adam et d'Ève sont des enfants perdus. Page 36, on a beau chercher, cette planète est vide. De ce lien suspendu entre le littoral et la haute montagne, nous allions assister à la fin du monde. Est-ce que, finalement, tout va à sa perte ?
Je ne vous cacherai pas que, à mes yeux, nous sommes dans une époque de régression. J'espérais que nous irions vers un monde où le progrès moral irait aussi vite que le progrès scientifique,
des technologies.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le progrès moral, d'abord, il va plus lentement et il ne va pas toujours dans la bonne direction. Et j'ai parfois le sentiment que nous sommes en régression. C'est vrai dans le monde entier. C'est encore plus vrai dans cette partie du monde d'où je viens. Quand je compare la qualité de coexistence d'aujourd'hui et celle d'il y a 40 ans ou 60 ans, il est évident que nous n'avons pas beaucoup progressé, en réalité. Pour dire les choses ainsi, moi, j'ai connu un monde où il y avait des gens qui venaient de partout, qui parlaient toutes les langues, qui se côtoyaient, qui étaient amis dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, les mêmes immeubles. Ça, c'était ma jeunesse. À Beyrouth, c'était le cas également à Alexandrie, à Smyrne, à Constantinople, à Sarajevo, dans toute une galaxie de villes de coexistence harmonieuse. Et aujourd'hui, c'est impensable. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge des, comme vous l'avez signalé, des identités meurtrières, des cités qui deviennent monocolores, où les minorités sont partout marginalisées quand elles ne sont pas persécutées.
C'est vrai que le livre raccroche deux mondes très différents, l'ancien, le nouveau. À l'époque où on écrivait, par le courrier, on attendait le courrier des semaines, on téléphonait, comme vous l'expliquez, parfois on n'avait pas le temps de parler, donc on disait l'essentiel. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, les nouvelles technologies, l'email, qui permet de parler en temps presque réel. Finalement, est-ce que ces technologies nous permettent de mieux parler ?
Dans ce cas précis, je trouve qu'il y a eu un progrès. Nous étions, il y a quelques dizaines d'années, à l'époque des échanges de lettres. Moi, j'ai écrit un livre il y a un certain nombre d'années qui s'appelait Origine, qui parlait de l'époque de mon grand-père et qui était basé sur des documents réels. Et à l'époque, on ne connaissait pas le téléphone et on envoyait des messages d'un village à l'autre, écrits. Et ça, c'est merveilleux pour celui qui vient 80 ans plus tard et qui trouve la trace de ce qu'on a pu se dire et que 10 ans plus tard, on n'allait plus pouvoir se dire puisqu'on le disait au téléphone, qu'il n'y a pas de trace. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un mode d'échange qui est un mode écrit. Et je fais une grande différence entre le courrier électronique et le texto. Le texto a tendance à être réducteur, avec des abréviations quelquefois douteuses, alors que le courrier électronique peut devenir un véritable courrier, comme le courrier des lettres d'autrefois. Moi, j'écris comme j'aurais pu écrire une lettre sur du papier, et le fait d'avoir un échange immédiat est, de ce point de vue, un progrès. Donc, la technologie est neutre en elle-même. Parfois, elle apporte du progrès, et parfois, au contraire, elle est facteur de régression, au moins sur le plan moral et culturel.
Revenons au titre du livre, si vous le voulez bien, Les Désorientés, qui au fond explique tout. Quitter le vieux pays, c'est se désorienter. Page 9, Adam ne protesta pas. Il avait conscience de ne plus savoir s'orienter dans cette ville, aux rues sans plaques, sans numéro, sans trottoir, où des quartiers portaient des noms d'immeubles, et les immeubles des noms de leurs propriétaires. On est étranger en sa propre ville. Page 34, depuis l'âge de 13 ans, je me suis toujours senti partout un invité, souvent accueilli à bras ouverts, parfois tout juste toléré, mais nulle part habitant de plein droit. C'est terrible, c'est... Comment définir ce sentiment ?
Je pense qu'à partir du moment où on a quitté le pays où l'on a vu le jour, on a le sentiment d'être invité dans le reste du monde. Et puis pour certains, ce sentiment existe depuis toujours. Parce que même dans leur propre pays, d'une certaine manière, ils sont invités parce qu'ils appartiennent à un groupe marginalisé. Je reviens un peu au mot de désorienté, c'est que j'ai choisi comme titre. Et c'est un très beau mot de la langue française. Dans le sens ordinaire, cela signifie égaré. Mais il y a le mot orient. Et quelqu'un a parlé de déboussolé. Et c'est vrai que c'est un peu la même idée, sauf que la boussole, normalement, indique le nord. Mais l'expression se réfère plutôt à l'orient qu'au nord. Donc on a le sentiment que perdre l'Orient, c'est se perdre. Et je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans l'histoire de l'humanité. Je pense que cette partie du monde que j'appelle le Levant, qui a été le berceau des grandes civilisations de l'Antiquité, des principales religions monothéistes, le fait que cette zone soit perturbée, soit constamment plongée dans des conflits sanglants, dans des sortes de guerres tribales, ça désoriente le monde en quelque sorte.
Alors que faire pour s'orienter, pour trouver une issue à tout ça? Est-ce qu'il y a finalement, est-ce qu'on peut se rattacher à quelque chose? Est-ce qu'on peut croire en quelque chose pour justement aspirer tout simplement?
Je pense que au sein de ce groupe, Adam et ses amis, le salut vient de l'amitié et de l'amour. Les liens entre les personnes permettent de ne pas réduire les personnes à des individus appartenant à un groupe. Il faut sortir les individus du groupe auquel ils sont censés appartenir de naissance et les voir simplement comme des personnes humaines. Je pense que c'est le premier pas, pouvoir tisser des liens d'amitié, d'amour avec des gens qui viennent d'autres cultures, d'autres croyances, d'autres milieux.
Et c'est bien ce dont il est question dans votre livre, puisque la part de l'amour est assez importante, quitte à aller même dans l'adultère.
Vous savez, on ne choisit pas toujours en fonction de tel ou tel principe. Je pense qu'il y a des moments où ces personnages se laissent guider par la vie, par le hasard des rencontres, par la bonne étoile qui, en l'occurrence, évoque une déesse de Mésopotamie. C'est vrai que ce qui est important, c'est de rester ouvert à la vie.
Je voudrais parler un instant du sentiment de remords. Je voudrais citer une phrase, page 188. Une sorte de reproche que l'on fait à Adam. Tu vas dans de belles contrées, tu vis, tu travailles, tu t'amuses, tu découvres le monde. Puis tu reviens après la guerre. Ton vieux pays t'attend, tu n'as pas eu besoin de tirer un seul coup de feu, ni de verser une goutte de sang. Et tu peux même te permettre de ne pas serrer les mains qui se sont salies. C'est le cas de nombreuses personnes qui, une fois de retour au pays, ont ce sentiment de « pourquoi je suis partie finalement ?» Comment expliquer ce sentiment? Est-ce qu'il y a finalement une explication à ça?
Je pense que c'est un sentiment légitime et en même temps, il est tout à fait légitime de s'en aller quand on ne veut pas participer à une guerre et se salir les mains.
Et sauver sa vie, tout simplement.
Et sauver sa vie et celle des siens. Je pense qu'une personne qui revient à un pays après s'être éloigné au moment de la guerre, n'a pas à se justifier. En même temps, il y a une forme de modestie, d'humilité qu'il faut garder. Il faut éviter de donner de leçons à ceux qui sont restés. Il faut éviter de se vanter d'avoir eu la sagesse de partir au bon moment. Mais je ne verse pas, quant à moi, et en cela je suis un peu différent d'Adam, je ne verse pas du tout dans la culpabilité. Je ne me dis pas « Ah, j'aurais dû rester pour souffrir avec les autres », ce n'est vraiment pas mon attitude. Je pense qu'un être humain n'est pas fait pour vivre sa vie entière à l'endroit où il est né. Je pense qu'un être humain a l'obligation de considérer qu'il doit vivre là où il se sent le plus libre, le plus en phase avec ses valeurs. Et pour moi, c'est l'essentiel. Cela ne veut pas dire qu'on doive se détacher complètement, se détourner complètement du lieu où on est né, des êtres qui y vivent, mais il y a une légitimité de la migration.
Il y a également des définitions particulières à la guerre dont on parle, parce que finalement, on entend dans votre livre qu'on aurait aimé quelque part que ce soit une vraie guerre, c'est-à-dire une guerre qui ait du sens, qui ait une vraie définition. Comme la guerre d'Espagne, par exemple, comme vous l'expliquez. Parce qu'il y avait une vraie cause, une vraie dimension éthique. L'autre, c'est notre tristesse, notre tragédie. C'est qu'il nous apparaissait que les combats que nous pourrions mener à notre époque et dans notre pays n'avaient pas la même pureté ni la même noblesse.
C'est un sentiment que j'ai éprouvé moi-même. Moi, j'étais nourri de livres d'histoire et je m'intéressais beaucoup à la guerre d'Espagne qui avait une signification particulière. Il y avait véritablement un combat entre des voies différentes, des options philosophiques différentes. Bon, il y a eu des exactions de tous les côtés, mais il y avait un sens à s'engager. Et beaucoup d'êtres de valeur se sont engagés dans cette guerre, des gens comme Orwell ou Hemingway ou d'autres, et elle était essentielle à leur formation, y compris en tant qu'écrivain. Je n'ai jamais eu le sentiment que les guerres du Liban et de sa région avaient la même teneur éthique. C'était principalement des guerres tribales, c'est-à-dire je suis avec ma communauté contre l'autre communauté, ils veulent nous éliminer, nous voulons les éliminer, ils essaient de nous opprimer. Ce sont essentiellement des conflits entre communautés et tout l'aspect idéologique venait comme couverture, comme une sorte de vernis pour rationaliser les choses, mais pour l'essentiel, il y avait très rarement. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une chose que je déplore, très rarement une dimension éthique au conflit. Et Ça m'avait toujours frappé et je n'ai jamais senti, c'est peut-être pour cela que je suis parti, je n'ai jamais senti qu'en m'engageant dans un camp ou dans l'autre, je me mettais au service de mes idéaux.
Et on sent bien la différence que veut bien établir Adam, la différence entre la religion et la morale. Il dit, moi j'ai besoin au moins que les gens aient une morale et pas forcément partent dans toutes les religions musulmanes, chrétiennes, juives, etc.
La religion n'est pas en elle-même en contradiction avec une morale, mais parfois elle peut l'être. C'est-à-dire quand les personnes se préoccupent essentiellement du licite et de l'illicite, de ce qui est autorisé par la loi céleste ou interdit, il ne se pose plus vraiment la question de la valeur éthique d'une décision ou d'un acte. Et donc je pense que l'on soit croyant ou pas, on a besoin en plus d'une dimension éthique qui ne vient pas nécessairement de la religion, même si elle peut être sanctionnée par la religion.
Amine Malouf, est-ce que vous-même, vous avez réuni des amis dans votre pays natal, comme le fait Adam dans le livre ?
J'ai eu cette envie. Il m'est arrivé de réunir des amis lors de voyages pour me souvenir des moments passés ensemble. Pas exactement dans les mêmes conditions, mais c'est une tentation, certainement. Moi, j'ai vécu une expérience un peu similaire. Ma jeunesse a été pendant une bonne partie du temps, une jeunesse vécue en groupe, avec des gens effectivement qui venaient de toutes les communautés, qui essayaient de dépasser les réalités communautaires vers d'autres idéaux. Et comme dans le livre, ils ont été dispersés, ils se retrouvent un peu partout et ils se voient rarement en réalité. Chacun a suivi sa propre vie.
Nous laisserons au lecteur le soin de découvrir la fin du livre. Et avant de clore cette émission, je voulais juste dire un clin d'œil à votre préface, puisque vous dédiez dans la première page du livre votre ouvrage à Jacqueline de Romilly. Alors pourquoi cette dédicace posthume peut-être ?
En fait, Jacqueline de Romilly est une grande amie. J'ai eu l'occasion de lui parler de ce projet de livre. Et puis malheureusement, elle a disparu avant que je termine le livre. J'avais l'habitude de lui envoyer mes livres. Et quelquefois, j'avais l'habitude de lui lire. Elle me demandait de lui lire parce qu'elle avait des problèmes aux yeux. Je lui lisais parfois des chapitres ou des articles ou des textes de conférences.
C'est très joli. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre dernier livre, Les Désorientés, pour mieux comprendre cette notion d'exil, de jours heureux, un peu moins heureux, de nostalgie, de souvenirs et de retour au pays natal, au vieux pays. Un livre paru chez Grasset et que je vous invite à lire sans plus tarder. Merci beaucoup Amine Malouf d'être venu dans cette
Merci
émission.
À vous.